dernière fois, j'ai essayé de vous parler en particulier des concepts de vertu, de fortune et d'occasion chez Machiavel, pour notamment dans le cheminement que je vous propose de la source de 4 séances, c'est d'essayer de voir comment, encore une fois, on peut penser une nouvelle forme de l'engagement citoyen ou de la vertu citoyenne à partir de la vertu qui est définie chez Machiavel. Et donc l'étape préalable à cela était de revenir plus précisément donc, sur ce qu'était la vertu déjà pour Machiavel. Et j'avais déjà établi un certain nombre de critères sur cette vertu qui sont les critères explicitement développés dans le Prince. Vertu qui consistait, donc, je vous rappelle rapidement, à être bien armé, à avoir une capacité d'anticipation et de lucidité sur les circonstances, développée à travers une métaphore médicale, notamment dans le Prince. Une capacité d'impétuosité qu'il fallait préférer à la circonspection ou au calcul trop réfléchi et trop froid au moment où les décisions étaient difficiles à prendre. Impétuosité. Et puis, évidemment, l'aspect fondamental de la maîtrise de l'apparence. Et à partir de là, donc ça, c'est ce qu'on entend couramment concernant la vertu chez Machiavel. Mais à partir de là, on s'était intéressé à un exemple plus spécifique qui était celui d'Agathocle dans le livre, où on constatait que Machiavel faisait la distinction entre un capitaine excellent et un homme excellent. Et l'homme excellent, qui est l'homme vertueux pour Machiavel, alors que le capitaine ne l'est pas, comme il le signalait pour Agathocle, l'homme vertueux, c'est en effet celui qui est bien armé, impétueux, lucide, donc, qui anticipe et qui sait maîtriser son apparence, mais c'est aussi, on l'avait vu, la figure du fondateur. Et le fondateur, c'était quelqu'un qui était capable, alors on avait développé un peu cette métaphore, de donner une forme à la matière un peu imprévisible que la fortune incarne. Donner une forme pour que un peuple qui se trouve dans un état de division, d'oppression, voire esclave, trouve trouve un lien et trouve un fondement, c'est-à-dire que c'était la définition sur laquelle on était resté, notamment dans la conversation qu'on avait eue à la fin, un fondement, c'est-à-dire ce par rapport à quoi on se situe. C'était cette notion de fondement comme ce par rapport à quoi on se situe qui était extrêmement importante parce que il fallait que l'instance dirigeante, quelle qu'elle soit à même de proposer une histoire, un mythe ou en tout cas quelque chose qui fasse autorité et par rapport à quoi les individus puissent se situer, c'est-à-dire suivre ce mouvement s'il plaît ou au contraire s'y opposer, mais en tout cas avoir un certain nombre de caractéristiques communes par lesquelles ils puissent se comprendre, discuter et évoluer politiquement. Alors, ce que j'aimerais faire ce soir dans une seconde étape vers cette transposition de la vertu machiavélienne à la vertu citoyenne, après avoir essayé de développer donc, les concepts de vertu, de fortune et d'occasion, c'est de vous montrer l'originalité de Machiavel par rapport à, exposons-le, l'ensemble de la philosophie politique, non seulement la philosophie politique qui le précède, mais même celle qui lui succède. Et pourquoi faire ça? Parce que cette originalité, elle va nous permettre de remettre au centre du problème politique une question particulière que, à mon sens, Machiavel est le seul à remettre au centre, et c'est de ça dont on va parler. Et cette question-là, qui est la question de l'altérité, je vais y revenir. Cette question de l'altérité, Machiavel est le seul, à mon avis, à la prendre à sa juste mesure dans la vertu politique. Et donc c'est ça que j'ai essayé de développer ce soir, avant la dernière étape de la semaine prochaine qui consistera donc à essayer de penser cette transposition dont je vous parle entre la vertu du prince et celle du citoyen à partir d'une lecture de Machiavel par un autre philosophe qui m'est cher, Mario Conti. Je peux déjà vous donner aussi d'emblée une référence d'un petit texte qui a été écrit par Mario Conti sur Machiavel et qui me servira la semaine prochaine, qui est un texte qui s'appelle La note sur Machiavel et que vous trouvez dans un livre de Mario Conti qui s'appelle Signe au pluriel. C'est très accessible dans ce livre, vous le trouvez en édition de poche, folio, enfin, c'est un livre très accessible. Donc, l'originalité de Machiavel par rapport à l'ensemble de la philosophie classique, c'est un gros pari de dire ça, peut-être que même qu'il est un peu trop tranché, on en discutera, mais ça suppose ça, que je vous fais cette originalité, que je revienne un petit peu sur ce qui caractérise le fondement, puisque c'est bien notre problème ici, le fondement du politique, notamment dans la tradition de la philosophie antique, pour commencer. On va voir que le fondement du politique a plusieurs origines différentes, enfin développe plusieurs perspectives différentes, et la nature de ce fondement, elle est avant tout métaphysique dans l'Antiquité. C'est-à-dire, métaphysique, ça veut dire qu'elle met en relation le politique, la nature de l'homme et, comment on peut dire ça, une sorte de forme de transcendance qui explique à la fois ce qu'est le monde et ce qu'est l'homme. Je vais expliquer ça. Origine métaphysique, donc ce sera la première forme de première caractéristique du fondement traditionnel du politique et du pouvoir dans la philosophie politique. Alors, commençons par le commencement célèbre de la politique en philosophie, c'est-à-dire Platon. Et alors, parler de politique chez Platon, il faut rétablir l'ensemble d'un système pour comprendre comment Platon perçoit la politique et quel est, selon lui, le fil directeur de politique. Ça suppose de remonter à l'astronomie, rien que ça. Pourquoi ? Les Grecs étaient des passionnés d'astronomie. Et le fait de constater, notamment dans le mouvement des planètes, une certaine régularité a conduit les scientifiques et les philosophes de l'époque à penser que on pouvait expliquer le monde, le cosmos, à partir d'une structure rationnelle, qu'on pouvait expliquer rationnellement l'ordre du monde. Et la condition de Platon, c'est que le monde sensible dans lequel nous vivons n'est qu'une déclinaison imparfaite de cet ordre parfait qui est défini par l'harmonie et même la beauté du monde. Ce qui est ordonné et harmonieux est beau, chez Platon. C'est pour ça que l'idée, ce qu'il appelle l'idée, c'est-à-dire cette structure intelligible qui va expliquer l'ordonnancement du monde, elle est avant tout définie par la beauté, chez Platon. Et donc, toute la théorie de l'idée, qui est assez connue dans Platonisme, là, ce que je vous décris, c'est ce que vous retrouvez dans un livre célèbre de Platon qui s'appelle le Timée. À partir de là, Platon va penser que chaque chose dans le monde, que ce soit l'homme d'un point de vue psychologique, que ce soit la relation entre les hommes d'un point de vue politique, doit chercher à miner la perfection de cet ordre du monde, la rechercher au maximum. Y compris la cité. La cité doit être ordonnée de manière intelligente, de manière harmonieuse. Et c'est pour ça que, pour Platon, celui qui doit diriger n'est rien d'autre, s'il vous plaît, qu'un philosophe. Le philosophe 3, la théorie de Platon, c'est justement l'idée qu'il faut absolument un dirigeant qui soit intelligent et qui ait accès, qui ait compris rationnellement cette structure harmonieuse du monde pour être à même de gouverner. Alors évidemment, cette théorie platonicienne, elle va aussi avec une certaine conception de l'homme. C'est-à-dire que il faut que les choses soient bien ordonnées. C'est-à-dire, chacun doit être à sa place. Donc, il y a des hommes qui sont faits pour gouverner, comme les philosophes. Il y a des hommes qui sont faits pour garder la cité. Il y en a d'autres qui sont faits pour travailler. Autrement dit, il y a une nature humaine définie à partir de, ça c'est ce que vous retrouvez dans le livre de Platon, La République. Il y a une nature de l'homme qui est définie à partir donc de cette recherche d'harmonie et de beauté qui doit être le guide pour la construction de la cité. Le point qui m'intéresse surtout, c'est de voir, parce que c'est ça qui va être important par la suite, de voir comment, à partir d'une certaine vision du monde, on déduit une certaine nature de l'homme, et à partir de là, ce que doit être la fondation ou le fondement du politique. C'est parce que le monde est ordonné, c'est parce que chaque chose doit être à sa place, que tout homme aussi a une nature particulière qui doit lui être attribuée, enfin une fonction particulière qui doit lui être attribuée dans la cité. Et donc, il y a une nature prédéterminée pour cela. L'idée qu'il existe une nature de l'homme qui faut prendre en compte pour fonder la politique, on va la retrouver aussi chez Aristote, mais de manière assez différente. Chez Aristote aussi, il y a des personnes qui naissent esclaves, il y a des personnes qui sont faites pour gouverner, il y a une nature prédéterminée de l'homme. Mais Aristote est tout de même plus nuancé que Platon. Il y a une citation très célèbre d'Aristote qui définit l'homme comme un animal politique. Cette citation, qu'est-ce qu'elle signifie ? Elle signifie que tout homme a instinctivement besoin de se lier à l'autre, de créer une cité pour aboutir au plein épanouissement de sa personnalité. La nature de l'homme ne se réalise que dans la cité. Et c'est pourquoi Aristote déduit de là que, là je passe un petit peu vite, mais c'est pour essayer de vous faire comprendre une perspective. Aristote déduit de là que la fonction première de la cité, c'est d'assurer l'épanouissement de l'homme, le bonheur de l'homme. Il y a un but défini aux politiques. Et c'est à ce point-là que, c'est sur ce point notamment que Machiavel fera des allusions assez destructrices dans Le Prince, où il parle des personnes qui ont imaginé un but du politique qui était complètement illusoire. C'est notamment Aristote, on peut supposer en tout cas, c'est pas explicite dans le texte, mais à mon avis c'est notamment Aristote qui est visé par ce type d'allusion de Machiavel. Et donc chez Aristote encore, on retrouve l'idée que il y a une nature de l'homme à définir, et qu'à partir de cette nature, il faut concevoir le but de la cité et le mode de gouvernement qui doit en découler. La tradition antique, donc, à partir d'une certaine origine métaphysique, définit la nature de l'homme et à partir de là, le politique. L'origine métaphysique n'est pas le seul aspect qui contribue à définir les fondements du pouvoir dans la tradition de la philosophie politique. Il y en a évidemment une autre qui est l'origine théologique, qui est aussi très importante et qu'on va retrouver notamment au Moyen-Âge chez saint Augustin et saint Thomas. Alors là, ça donne encore un autre aspect au pouvoir et à la conception du politique. Pour saint Augustin, avant le péché originel, tous les hommes vivaient dans l'harmonie, ils avaient une nature prédéfinie et tout se passait bien. Et puis il y a le fameux péché originel, et à partir de là, l'homme perd toute définition, toute nature, et ce qui le caractérise fondamentalement, c'est le fait qu'il est perdu dans ses désirs et que c'est un homme complètement divisé. Et qu'à partir de cette division qui le constitue, il est incapable de reconstituer entre les hommes une justice véritable. Le seul moyen de reconstituer cette justice, et le seul moyen que l'homme retrouve sa nature, c'est que Dieu lui en fasse grâce. Vous savez que dans la théorie augustinienne, ce qui vous attend au moment du jugement dernier, on va dire, ne dépend en rien de votre conduite sur terre. C'est uniquement la grâce divine qui décide de tout. Et donc là, on a une autre théorie de la politique et du pouvoir qui va naître. Je vous lis juste un petit passage de La Cité de Dieu, de saint Augustin, qui montre par quoi il faut résoudre ce problème de la justice impossible entre les hommes et sur quoi doit se fonder un gouvernement politique humain. Deux amours ont donc bâti deux cités. L'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, la cité de la terre. L'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, la cité de Dieu. L'une se glorifie en soi, et l'autre dans le Seigneur. Celle-là, dans ses chefs, dans ses victoires, sur les autres nations qu'elle dompte, se laisse dominer par sa passion de dominer. Celle-ci nous représente les citoyens unis dans la charité, serviteurs mutuels les uns des autres, gouvernants tutélaires, sujets obéissants. Autrement dit, si le lien qui doit reconstruire le vivre ensemble, chez saint Augustin, doit passer par l'amour de Dieu. Parce que seul Dieu, selon lui, est à même de créer cette justice, et l'instance dirigeante doit savoir susciter cet amour, je ne sais pas, mais en tout cas, toujours avoir cet amour pour guider. Donc vous voyez qu'on arrive ici à une théorie du pouvoir, comment dire, qui peut ouvrir sur le problème de la coercition. Parce que si tout repose, enfin, j'en parlerai plus tard sur le sujet de Machiavel, parce que il y a un lien de ce point de vue-là entre saint Augustin et Machiavel, mais ça demande quelques développements et j'en parlerai un peu plus tard. Origine théologique aussi chez saint Thomas, mais alors là, on va avoir une conception du pouvoir et de la cité un peu différente. Chez saint Thomas, l'homme a une nature qu'il doit accomplir. Il existe une certaine loi naturelle et Dieu va l'aider à accomplir cette nature à travers la cité. Mais d'une certaine façon, il existe chez saint Thomas un retour de l'aristotélisme, c'est-à-dire que les hommes doivent avoir une conduite sur terre louable pour que Dieu ensuite les aide à réaliser leur nature. Alors, pourquoi je vous parle très succinctement et rapidement à nouveau de ces origines théologiques du pouvoir? Qu'est-ce qui m'intéresse à nouveau ici? Eh bien, finalement, à travers une théorie théologique et à travers la foi qu'elle suppose, on a à nouveau, pour concevoir le fondement du pouvoir politique, un dogme sur ce qui constitue la nature profonde de l'homme. C'est parce que l'homme est fondamentalement divisé, chez saint Augustin, qu'il ne retrouvera son unité que dans l'amour des autres et l'amour de Dieu en général. C'est parce qu'il existe une potentialité naturelle chez l'homme qui doit être développée, chez saint Thomas, que l'homme va s'associer aux autres et tenter de se réaliser. De la même manière que dans l'origine métaphysique, qui tente de définir le politique à partir d'une nature humaine déduite du rapport à une force de transcendance, l'origine théologique à nouveau établit un dogme sur ce qu'est l'homme et à partir de là on déduit la nature du politique. Un dogme. Alors, contre cela, évidemment, quand vous arrivez au XVIIe siècle, l'émergence de la raison et de la subjectivité avec Descartes, l'homme est replacé au centre de tout, et donc on va toujours essayer de penser le politique à partir d'une définition de la nature humaine, mais cette fois-ci il ne s'agit pas de le fonder dogmatiquement sur une croyance. Il s'agit de fonder rationnellement. Comment ? Eh bien, c'est ça qui explique toutes les théories du contrat qui vont naître à partir du XVIIe siècle pour fonder le pouvoir. Pourquoi ? Parce que si on abolit la référence à une forme de transcendance, le seul moyen qui reste de fonder rationnellement le pouvoir, c'est le consentement des gens qui se soumettent. Et donc, on suppose chaque homme, doté d'une raison, capable de suivre à la fois son intérêt et l'intérêt général, et on va fonder le pouvoir à partir de cette théorie du contrat. Comment ? Eh bien, là encore, que vous preniez Rousseau, alors c'est pas le 17e, c'est le 18e, mais Hobbes, ou Locke, vous allez retrouver des théoriciens politiques qui vont essayer d'établir rationnellement, cette fois, sans dogme, ce qu'est la nature de l'homme pour en déduire ensuite la nature de l'État à fonder. C'est pour ça que toutes ces théories du contrat reposent sur ce qu'on appelle traditionnellement en philosophie l'état de nature. Qu'est-ce que c'est que l'état de nature ? Dans les théories du contrat. Vous le retrouvez, ça, encore une fois, c'est Hobbes, Locke, Spinoza, aussi, Rousseau. Ensuite, l'état de nature, évidemment, ni vous, ni moi, ni Rousseau, ni Locke, ni Hobbes, n'en ont jamais vu la couleur. L'état de nature n'est pas un état réel de l'existence humaine. L'état de nature, c'est une fiction pour réfléchir. Quelle est cette fiction ? Essayez d'imaginer, mais avec une imagination rationnelle, si on peut dire, argumenter, d'essayer d'imaginer ce que serait l'homme spontanément, quelle est sa nature la plus profonde, et comment, à partir de cette nature-là, fonder une politique. L'état de nature sert à ça, Le problème, c'est que, évidemment, aussi rationnel qu'on soit, on n'est pas d'accord sur cette nature de l'acte. Quelques exemples. Hobbes, dans son ouvrage politique le plus connu, Le Léviathan, que dit-il ? C'est très connu, l'état de nature chez Hobbes, c'est l'état de guerre de tous contre tous. Qu'est-ce qui caractérise l'homme chez Hobbes dans l'état de nature ? La crainte de la mort violente. Pourquoi ? Parce que nous sommes en conflit en permanence avec les autres. Et s'il n'y avait pas de loi, on passerait notre temps à s'entretuer, selon Hobbes. Alors évidemment, ça, c'est très visible là comme ça, mais il argumente. Et il a des arguments qui sont assez forts, quelque part. Il calcule beaucoup à partir des passions humaines. Il dit par exemple ceci, dans un passage de Léviathan, dont j'ai oublié la référence. Ça me reviendra peut-être. Peut-être sur une étiquette, mais je suis plus sûr. Il nous dit, je ne juge pas cette nature de l'homme qui consiste à être destructeur par rapport à autrui. Et on pourrait être surpris que je pense ça, dit Hobbes. Pourtant, regardez, même quand il existe des institutions pour nous protéger, même quand il existe des polices et des forces armées pour assurer notre sécurité, même là, qu'est-ce qu'on continue à faire ? Fermer sa porte à clé quand on rentre chez soi. Se balader armé quand on va dans une zone que l'on croit un peu dangereuse pour nous. Autrement dit, même dans un état civil, nous continuons à avoir une méfiance spontanée vis-à-vis des autres. N'est-ce pas la preuve, a fortiori, si on peut dire, que notre nature, dit Hobbes, est du côté de la méfiance. Et donc, ce qui caractériserait notre nature chez Hobbes, c'est la crainte et donc la violence. Ça, ça a évidemment une conséquence dans sa théorie de l'État. Finalité première de l'État chez Hobbes, assurer la sécurité des hommes pour les faire sortir de cette crainte. Conséquence logique également, à partir du moment où vous voulez assurer la sécurité des hommes, eh bien, il faut un pouvoir extrêmement puissant. Puissance absolue. Le Léviathan, figure monstrueuse qui incarne le chef d'État chez Hobbes, est un chef d'État qui a une puissance absolue parce que les citoyens ont consenti dans leur ensemble à abandonner leur liberté de décision pour être protégés par cette instance dirigeante qui détient une puissance absolue. Évidemment, ça a été commenté des dizaines de milliers de fois, une fois que vous avez instauré une puissance absolue, vous ne savez jamais de quel côté cette puissance va être orientée, ni dans quel intérêt. Ça, c'est les critiques qui sont faites à Hobbes. Mais ce qui est intéressant ici, d'ailleurs c'est aussi intéressant de voir, je trouve, pour la réflexion politique, à partir du moment où on défend une valeur politique, cette valeur c'est toujours le reflet d'une certaine vision de la nature humaine. Toujours. Quand on défend la valeur de sécurité, ça veut dire que la vision de la nature humaine qu'on a de manière sous-jacente, c'est la crainte de l'autre. Et conséquemment, aussi, à partir du moment où la valeur sécurité est mise en avant, il est très probable d'avoir derrière un renforcement de l'exécutif, du pouvoir exécutif. Donc, je trouve que, enfin, la logique est parlante et je trouve très parlante par rapport à ce qu'on a pu voir sur la dernière campagne électorale qui a mis au centre du thème de la campagne la sécurité. Il ne faut pas s'étonner si derrière on a un renforcement de l'exécutif. Hobbes en avait montré la logique. Bref, argumentation de Hobbes donc sur cet état de nature. Alors chez Locke, là on a un penseur politique un peu particulier. Chez Locke, il y a une réflexion rationnelle, mais en même temps, une réflexion rationnelle qui repose à nouveau sur une certaine vision de Dieu. Que dit Locke ? Les êtres humains sont des créatures de Dieu et ne sont donc pas propriétaires de leur propre vie. Ils n'ont donc pas le droit de se suicider. Nous sommes tenus de vivre. Et pour cela, Dieu a tout offert dans la nature pour que nous puissions vivre. Et ce qui est intéressant là, ça va être justement ce concept de propriété. Que dit Locke ? Dans l'état de nature, nous avons le droit, il existe une loi naturelle chez Locke, nous avons le droit de nous approprier tout ce qui nous est nécessaire pour notre survie. Mais attention, jamais plus. Jamais plus. Le gaspillage, c'est horrible. Et donc, évidemment, cette appropriation des biens naturels donnés pour notre survie, il faut la garantir par l'État. Pourquoi ? À partir de quel moment ? Ça, c'est très intéressant chez Locke, dans le traité des gouvernements civils. Changement politique fondamental chez Locke, l'apparition de la monnaie. Pourquoi ? Qu'est-ce que permet la monnaie ? La monnaie, elle permet d'accumuler ce qu'on s'approprie sans gaspiller. Et donc là, ça trouble complètement l'ordre naturel et la loi naturelle, et donc il faut fonder un État qui réassure non seulement la sécurité des citoyens, mais surtout leur propriété. Donc vous voyez, là on est dans une autre vision encore de la nature humaine. On lie la vie à la question de la propriété, beaucoup. Et puis je voudrais terminer ce petit récapitulatif de l'état de nature avec Rousseau. Rousseau, le contrat social. Qu'est-ce qui caractérise l'homme dans l'état de nature ? Alors il faut mêler à plusieurs œuvres de Rousseau pour caractériser l'homme. Dans le contrat social, ce qui caractérise l'homme dans l'état de nature, c'est deux choses. L'homme est trop faible pour survivre. Mais pas forcément parce qu'il est en conflit avec les autres, mais il est trop faible pour survivre. Il n'a pas les moyens de survivre, il est obligé de s'associer. Et surtout, dit Rousseau, et ça c'est la valeur la plus fondamentale chez lui, c'est celle par laquelle le contrat social débute, l'homme est libre. Accessoirement, ça c'est dans sur les origines et les fondements de l'inégalité. Là, Rousseau aussi a un autre discours. Il dit, dans l'état de nature, l'homme a spontanément de l'empathie, de la pitié pour autrui. La pitié. Vous voyez que là, on est dans les théories rationnelles du contrat social chez tous ces auteurs. Et pourtant, il y en a un qui caractérise l'homme par la crainte de la mort violente, et par la crainte de l'autre, et puis l'autre par la pitié. Donc vous voyez, l'état de nature, c'est compliqué. Alors, ça pourrait être théorique. Le problème, c'est que ces théories, elles ont une conséquence colossale. Pourquoi ? Parce que Rousseau définit l'homme comme naturellement faible et libre, surtout, qu'il invente derrière le principe de la souveraineté populaire. J'explique. Dans le contrat social, le passage à l'État se fait comment chez Rousseau ? Il y a deux exigences au contrat social. La première, c'est que il faut sortir de cet état de faiblesse, donc on est obligé de s'associer. Pour gagner en force à plusieurs, on est plus fort, on survivra. Mais cette association, dit Rousseau, doit absolument conserver à l'homme sa liberté naturelle. Quel est le moyen pour cela? Rousseau dit, alors là c'est un passage un peu compliqué et technique du contrat social, parce que je vais arriver à l'expliquer clairement. Il faut que chaque citoyen, mais chaque individu, abandonne sa liberté naturelle juste au temps du contrat et qu'il accepte de se soumettre aux décisions de l'ensemble de la communauté des individus. Mais, dit Rousseau, comme tout le monde fait la même chose, tout le monde abandonne sa liberté pour se soumettre aux décisions de l'ensemble de la communauté, à la volonté générale. Comme tout le monde fait ça, le raisonnement est très logique. Déjà, tout individu est égal aux autres. Mais en même temps, tout individu participe aux décisions de la communauté et subit les décisions de cette communauté. Autrement dit, chaque individu ne fait que se soumettre à une décision qu'il a lui-même prise. Si vous faites ça, qu'est-ce que ça veut dire? Obéir à une loi qu'on a soi-même choisie, sinon être libre. C'est le raisonnement de Rousseau. Mais Rousseau ne peut inventer ce principe que parce qu'il a défini une certaine nature de l'homme. En fonction de la nature humaine que vous théorisez, vous aboutissez à des types d'états différents. Puissance absolue chez Hobbes, puissance... j'aurais du mal à la caractériser. Mais disons, importance de la propriété chez Locke, souveraineté populaire chez Rousseau. On pourrait encore parler de Spinoza et de bien d'autres. Cette théorie de l'état de nature, elle perdure encore dans nos théories politiques les plus modernes. Vous avez aujourd'hui un livre extrêmement connu qui est considéré comme un des plus grands livres politiques actuels qui s'appelle La théorie de la justice de John Rawls. À nouveau, John Rawls fait référence à un état de nature pour fonder la politique. Qu'est-ce que je veux vous dire à travers tout ça? Que finalement, qu'on soit dans le dogme métaphysique ou le dogme théologique, ou que l'on soit dans une réflexion même rationnelle, l'état de nature et la manière dont on conçoit la nature humaine repose sur une croyance. Et cette part d'arbitraire dans, à mes yeux, une croyance et une part d'arbitraire, cette part d'arbitraire est fondamentale parce que c'est elle qui détermine la nature des valeurs politiques qui vont être poursuivies et la nature de l'État qui va être fondée. Alors, je reviens à Machiavel. Pourquoi dire que Machiavel a, par rapport à tout cela, une originalité fondamentale? Vous pourriez me dire, mais chez Machiavel aussi, il y a une nature humaine. Qu'est-ce que vous en pensez? L'homme est mauvais, il le dit. Non? Peut-être pas. Si, il le dit, pardon.
C'est un déterminement, c'est pas s'exprimer sur la nature propre de l'homme. C'est un critère moral,
moralisateur?
Oui. c'est pas vraiment un critère qui va expliquer la nature de l'homme. En elle-même.
Vous pouvez.
Mais je pense qu'ils ont tout simplement en fait la nature de l'homme.
Peut-être. Mais c'est pas si simple à montrer. Tout le monde pense que Macaulay est quelqu'un qui définit la nature humaine comme une nature fondamentalement mauvaise. Et il écrit dans le Prince. Je voudrais vous montrer un certain nombre de choses pour revenir, quand je vous ai dit à la première séance que la question de la lecture dans le détail du Prince était très importante. À chaque fois que Machiavel énonce une règle naturelle de l'homme. Et je voudrais vous donner quelques exemples, certains je vous avais déjà cités, mais là je vais les lister pour vous montrer un ensemble de paradoxes. Par exemple, est-ce que l'homme est attaché aux traditions chez Machiavel? Je prends ces exemples, vous verrez pourquoi. Je vous avais cité un peu déjà la semaine dernière. Vous savez que Machiavel dit que, enfin, on dit toujours ça, que le principal le plus difficile à conquérir est celui qui n'est pas héréditaire mais nouveau. Regardez ce qu'il dit, chapitre 2 du Prince. Je dis donc que dans les principats héréditaires et accoutumés au sang de leur prince, il y a beaucoup moins de difficultés à se maintenir que dans les nouveaux. L'hérédité, l'aspect ancien, est une force pour le pouvoir en place parce que l'homme serait plus attaché à la tradition et à l'ancienneté de manière naturelle. Chapitre 2. Ne me croyez pas sur parole, lisez. Chapitre 24. Les choses qu'il dit, observez prudemment, font paraître ancien à un prince nouveau et le rendent tout de suite plus ferme dans l'état que s'il y était depuis des temps anciens. Chapitre 24. Il ajoute ensuite que la force d'un prince nouveau, c'est qu'il est beaucoup plus observé qu'un prince ancien qui a de l'ancienneté, et que du coup, s'il sait maîtriser son apparence, cette nouveauté absolue est une force. Bref. Première petite contradiction à relever. Même chose sur la question du rapport à la nouveauté. Est-ce que l'homme aime bien la nouveauté ou pas? Chapitre 3. Ces variations, je ne sais plus de quelle variation il parle, naissent d'une difficulté naturelle qu'il y a dans tous les principales nouveaux, qui sont que les hommes changent volontiers de seigneur, croyant aller vers le mieux. Bref, il y a un attachement à la nouveauté, puisque finalement on croit qu'on va aller vers le mieux. Chapitre 6. Machiavel parle du prince nouveau et de l'introduction, du problème de l'introduction d'institutions nouvelles dans l'État. Parce que celui qui les introduit, ces institutions, a pour ennemi tous ceux qui tirent avantage des vieux ordres et pour tiède des défenseurs, tous ceux qui tiraient avantage des nouveaux. Tiédeur, c'est la suite qui m'intéresse, tiédeur qui naît en partie de la peur des adversaires, qui ont des lois de leur côté, en partie de la crédulité des hommes qui ne croient pas en vérité aux choses nouvelles, à moins d'en avoir à vous de faire une expérience. Rapport à la nouveauté, des fois on aime l'ancienneté, des fois on aime la nouveauté. Mais il y a bien pire. La fameuse question de la bonté naturelle ou de la méchanceté naturelle de l'homme. Bien sûr, on les connaît, ces citations de Machiavel. Chapitre 15. Parce qu'il y a si loin de la manière dont on vit à celle dont on devrait vivre, que celui qui laisse ce qui se fait pour ce qui se devrait faire apprend plus vite sa ruine que sa préservation. Parce qu'un homme, il parle du chef d'État, parce qu'un homme qui veut faire en toute part profession d'homme bon, il convient qu'il aille à sa ruine parmi tant qui ne sont pas bons. Bref, la politique ne doit pas chercher la moralité parce que de toute façon, l'homme est mauvais. Chapitre 17, même constat. Et là, il y a encore d'autres valeurs qui interviennent. Sur la question de l'engagement vis-à-vis d'un prince et de la fidélité à un prince. Les hommes offensent avec moins de circonspection quelqu'un qui se fait aimer que quelqu'un qui se fait craindre, parce que l'amour est tenu par un lien d'obligation qui est rompu, les hommes étant mauvais, dès qu'une occasion d'utilité propre se présente, etc. Donc, l'attachement au prince, l'amour, la vertu, etc. Tout ça, de toute façon, dès qu'un homme est menacé dans son intérêt, tout ça, c'est des liens d'obligation qui s'envolent bien, bien vite. L'homme serait donc naturellement mauvais, injuste, traître, etc. Chapitre 21. Mais quand le prince se découvre gaillardement en faveur d'une partie, si celui auquel il s'attache vint, quoi qu'il soit puissant et que tu demeures à sa discrétion, il s'est obligé, et l'amour y est engagé, et les hommes ne sont jamais si malhonnêtes qu'ils s'oppriment en donnant un tel exemple d'ingratitude. Puis les victoires ne sont jamais si franches que le vainqueur ne doive aucun égard, surtout envers la justice. L'homme est mauvais, l'homme est tout ce qu'on veut, et non, là, finalement, l'homme, c'est impossible qu'il soit aussi malhonnête, c'est impossible. Il y a une limite naturelle à cela. Contradiction absolue. D'après vous, comment on peut comprendre ça?
C'est tout simplement le besoin d'être en permanence en train de s'adapter à l'autre.
Absolument. Absolument.
Parce qu'il peut être tout et n'importe quoi. Il faut prendre tel qu'il est pour tel qu'il soit.
Tout à fait. Et la révolution, à mon avis, de Machiavel, et qui fait son originalité fondamentale, c'est que il est hors de question de fonder la politique sur une quelconque vision a priori de la nature humaine. Pourquoi ? Parce que cette nature, d'ailleurs ce n'est même pas une nature, le mot ne convient plus, elle change sans cesse en fonction des circonstances. Et donc, le but de la politique de Machiavel, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, justement, fonder une politique avec cette contingence. Avec l'énigme absolue de la nature humaine. Et finalement, est-ce que cette énigme absolue de la nature humaine n'est pas ce qu'il appelle la fortune, quelque part. Qu'est-ce que cherchent les dogmes sur la nature de l'homme, la plupart du temps, ou même la définition de l'état de nature dans les théories du contrat? Elles cherchent à penser la nature de l'homme pour savoir quelle sera sa relation spontanée et immédiate à autrui. Et à partir de là, on essaye de fonder le vivre ensemble. Ce que dit Machiavel, c'est que ce que sera la nature spontanée de notre relation à autrui, on n'en sait absolument rien. Tout dépend des circonstances. Et le pouvoir doit faire avec ça. Et l'établissement de l'État doit faire avec cette contingence absolue, avec cette fortune. C'est quand même un peu paradoxal de voir que l'auteur politique qui est considéré comme l'un des plus violents de l'histoire de la pensée philosophique politique est paradoxalement, quelque part aussi, le moins dogmatique sur la nature humaine. Et à mon avis, ça, c'est très intéressant. Pourquoi est-ce que ça me semble important? Parce que si on repart du cœur du problème politique, qui est la constitution d'un vivre ensemble. Le cœur du problème politique, c'est la relation à autrui, de manière générale. Qu'est-ce que vous faites si vous établissez, a priori, d'avance, ce que sera cette relation à autrui, spontanément, immédiatement, naturellement? ben, vous ne tenez pas compte d'autrui. Vous ne tenez pas compte de ce qu'est, justement, l'altérité absolue. Si vous avez déjà un principe pour régler la question de l'altérité, l'altérité n'est pas prise en compte. Et donc, à mon avis, ce que Machiavel remet au centre de la question politique, c'est la convergence fondamentale de notre relation à autrui. Et il faut apprendre à faire avec ça. Et c'est pour ça que, et c'est là, à mon avis, qu'on peut vraiment comprendre le sens de la politique de Machiavel. C'est pour ça qu'il dit qu'il vaut mieux, mais considérer l'homme comme mauvais. Pourquoi ? Parce que c'est le meilleur moyen, c'est le moindre mal. Si vous vous préparez, si le chef d'État se prépare sans cesse à anticiper des relations conflictuelles entre les hommes, l'État sera prêt à faire face à cela. Mais ça n'est qu'une technique politique, ça n'est pas un diktat sur ce qu'est l'homme. C'est une technique politique. Il vaut mieux considérer l'homme comme mauvais, comme fondamentalement mauvais, pour être à même d'anticiper tout ce qui peut se passer politiquement. Mais ce qui me semble intéressant, et c'est là qu'on va rejoindre un petit peu l'interprétation de Merleau-Ponty que je vais vous suggérer la semaine prochaine, c'est que Merleau-Ponty voit dans Machiavel quelqu'un qui est... Il voit dans la vertu, il y a un passage comme ça dans la version Machiavel où il dit que la vertu, c'est simplement le moyen de vivre avec autrui. Et je vous parlerai aussi la semaine prochaine de la raison pour laquelle Merleau-Ponty a été extrêmement attiré par Marx, mais pourquoi aussi s'en est distancé ensuite. Qu'est-ce qui intéresse énormément chez Marx ? C'est que, justement, là encore, chez Marx, vous n'avez pas vraiment de nature humaine. Il n'y a pas d'idée a priori de ce qu'est l'homme. Ce qui est remis au centre du commencement politique, c'est l'expérience de l'altérité. Alors, il y a un petit parti pris, c'est dans les rapports de production et les rapports matériels. Et c'est peut-être là qu'on peut dire que Marx apporte un postulat, quelque part. Parce qu'il décide que cette énigme de l'altérité se résout en premier du point de vue matériel. Et là-dessus, peut-être qu'on peut discuter. Mais il n'empêche qu'il est l'un des premiers penseurs politiques à remettre au centre l'expérience de l'altérité pour ensuite voir comment émerge à partir de là une certaine pensée du politique. Mais il faudra discuter ça. Et on pourra discuter aussi à travers la vision de Merleau-Ponty. Et donc voilà, c'était ce passage-là, cette originalité de Machiavel que je voulais souligner, ce retour à l'expérience de l'altérité, à l'énigme de l'expérience de l'altérité et à sa convergence fondamentale, pour pouvoir comprendre ensuite comment on peut essayer de penser la question de l'engagement citoyen et du rapport à autrui comme modèle de réflexion pour le fondement politique. Ne pas déterminer a priori la nature de l'homme et ce que sera notre relation à autrui, mais faire l'expérience de ce qu'est cette relation, voir ce qu'elle est en fonction des circonstances, et fonder, si possible, une histoire à partir de là. Une histoire politique. Une histoire qui nous unisse malgré l'altérité. Voilà, je m'arrête là pour ce soir. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? C'est un... Je suis allé un peu vite sur les questions des origines théologiques et métaphysiques. C'est bien plus complexe que ce que je vous ai présenté. Les théories du contrat social aussi, mais dès qu'on prend une perspective, forcément on trahit un peu des choses aussi. Mais peut-être que vous avez des remarques aussi.